Donc 2 Pierre 3 et on va lire tout le chapitre. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une comme dans l'autre, je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Souvenez-vous, en effet, des paroles dites autrefois par les saints prophètes ainsi que du commandement du Seigneur et Sauveur que vos apôtres vous ont transmis. Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Alors, qu'en est-il de la promesse de sa venue ? Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et l'a rassemblée du milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vue du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec toutes les œuvres qui auront été accomplies sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et avec quelle piété en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur a pour but votre salut. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu, et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Vers l'an 1000, on pensait que ça y est, la fin du monde allait venir. Parce que un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un an. On était en l'an 1000. L'an 1000 est venu, Jésus n'est pas venu. Au XIVe siècle, 30 à 50% de la population européenne a été décimée par la peste noire. Alors on s'est dit, c'est sûr, c'est le jour du Seigneur. Puis la peste est partie, et le Seigneur n'est pas venu. Au XVIe siècle, il y a eu un certain Melchior Hoffmann. Il prédit la fin du monde, 4000 à Strasbourg. Hop là! Il a été emprisonné et la fin du monde n'est pas arrivée. Ses disciples se sont réfugiés dans une autre ville, à Münster, et ils ont déclaré que c'était la nouvelle Jérusalem. Ils lancent une insurrection armée pour établir le royaume de Dieu par la force. Ils établissent une communauté de biens et la polygamie, parce que tant qu'à faire, autant tout partager. Et ils se sont fait massacrer. Et Jésus n'est toujours pas venu. Je pourrais multiplier les exemples, Parler de l'Allemagne nazie, de la guerre froide, maintenant de Trump. Il y a bien des occasions et des circonstances où les chrétiens se sont dit « Ça y est, le mal se déchaîne, c'est de pire en pire, la fin du monde doit être là. » Ou pas. Mais que fait Dieu? Pourquoi tarde-t-il? Ça fait quand même 2000 ans maintenant que Jésus a dit qu'il venait bientôt. Est-ce que Jésus ne serait-il pas un peu facétieux? Alors, comme pour les Thessaloniciens, il faut comprendre un petit peu le contexte de la lettre pour comprendre les enjeux de ce que Pierre développe. Cette lettre, c'est un peu le testament de Pierre, parce que l'apôtre Pierre sait qu'il est sur le point de mourir. Et en même temps, il voit qu'une menace pèse sur l'Église. On ne sait pas à qui il s'adresse, mais en tout cas, il avertit ceux qui sont pour lui des bien-aimés, des chers amis, des chers frères, du danger des faux prophètes qui commençaient à s'infiltrer dans l'Église. C'était des faux enseignants qui se présentaient comme chrétiens, mais qui pervertissaient le sens des prophéties de l'Ancien Testament et des écrits de Paul. Des hommes intelligents et habiles pour tromper à la moralité douteuse, cupidité, arrogance, débauche sexuelle, caractériser leur vie. Et dans notre passage, dans toute la lettre en fait, mais en particulier dans notre passage, Pierre va s'attaquer à un de leurs faux enseignements, le Seigneur ne viendra pas. Il ne faut pas croire ce qu'il a promis. Et comme il le dit au verset 1, Pierre va chercher à stimuler la manière de penser de ses lecteurs pour qu'ils soient capables, par leur intellect affûté, de réfuter ces faux prophètes et de ne pas se laisser entraîner dans leur dérive. À la fin du passage, Pierre évoque le fait que les lettres de Paul sont un poil compliquées. Et on pourrait aussi se demander à quel degré de complexité Pierre estime sa propre lettre, car ce passage où il est question d'un grand barbecue cosmique n'est peut-être pas le plus simple de l'écriture. Mais on devait s'y attendre. Pour stimuler la pensée de ses lecteurs, Pierre emploie des arguments un petit peu élaborés. Alors accrochez-vous, parce que c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est la parole de Dieu quand même. Pour s'opposer aux faux enseignants, Pierre va argumenter en plusieurs étapes. Et ces étapes, elles tournent un petit peu autour du souvenir et de l'oubli. Verset 2, « Souvenez-vous des paroles dites autrefois. » Verset 5, « Il y a un fait qu'ils oublient délibérément. » Et verset 8, « Il y a un fait que vous ne devez pas oublier. » Alors, premier argument, versets 1 à 4, « Souvenez-vous. » Les moqueurs étaient annoncés. Les faux prophètes, ces fourbes garnements, remettaient vraisemblablement en cause les promesses annoncées de l'Ancien Testament par les prophètes au Nouveau Testament par le Seigneur et ses apôtres, et en particulier de la venue de ce jour du Seigneur. Et évidemment, ça pose problème. Une telle négation des promesses n'est pas sans conséquence. Si le Seigneur ne revient pas, s'il n'y a pas de jugement, alors, on peut faire ce qu'on veut de sa vie. Pas de problème, non pas de conséquences. Non pas de conséquences graves, absolues. On peut faire ce qu'on veut sans les conséquences fâcheuses. Et ce mode de vie, Pierre l'avait déjà dénoncé dans les chapitres précédents. Si pas devenu, notre salut, finalement, il ne se produit que dans notre vie maintenant. Par la sécurité que procure l'argent. Donc cupidité, on ne va pas hésiter à exploiter les autres pour s'enrichir, c'est chacun pour soi. Ou alors, s'il n'y a pas de jugement, c'est sex, drug and rock and roll. Si rien d'autre ne compte que notre vie, finalement, autant assouvir ses désirs et ses passions, sans restriction. Alors ces faux prophètes se présentent comme des prophètes de Dieu, mais finalement, ils sont les porte-paroles de ce qu'on a envie d'entendre. De nos jours, ces porte-paroles de ce qu'on a envie d'entendre ne se disent pas chrétiens, mais ce sont les idéologies qui sont bien présentes dans notre société ton salut, c'est la consommation, et c'est ton propre plaisir. Et cette idéologie, je la résume encore une fois avec un hashtag, hashtag YOLO. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, vous l'avez peut-être vu dans des vidéos un peu folles où des gens font des trucs complètement fous. Ça veut dire « you only live once », tu ne vis qu'une seule fois. Donc, on s'éclate au max tant qu'on peut. La vie ne vaut le coup d'être vécue que s'il y a du plaisir, que si on s'amuse. Il y a une autre version du YOLO qui est plus pessimiste, qu'on trouve aussi. Et pour ça, je vais vous citer une chanson d'un groupe qui s'appelle Arch Enemy. Chanson s'appelle War Eternal. C'est un groupe qui a une vision du monde anarchiste. Ami ou ennemi, il n'y a aucun moyen de savoir. À travers le champ de bataille de la vie, c'est tuer ou être tué. Tant de fois, ça dépend de ta position, debout par chance ou à genoux. C'est un enfer infernal, c'est la guerre éternelle. Ils veulent te changer, te briser, t'écraser, te dire quoi faire, te contrôler. Où est-ce que tu te tiens ? Viendra un jour, pas si lointain, où le chasseur deviendra la proie. Et ça, c'est un peu le seul espoir. C'est que la situation va se renverser par chance. Tu vas devenir le chasseur et plus la proie. Mais la vie, ta vie que tu vis qu'une seule fois, c'est une guerre qui ne s'arrêtera pas. Tu ne vis qu'une seule fois, c'est une question de chance. C'est une vie marquée par la lutte, le conflit, l'exploitation. Je ne crois pas que le groupe prône cette situation de guerre éternelle, mais c'est un cri de rage face à cette injustice contre laquelle on ne peut pas grand-chose. De nos jours, du point de vue matérialiste, il n'y a plus tellement d'espoir. Avant, il y a encore quelques années, quand l'idéologie communiste était plus présente, il y avait un espoir. Il y avait cette attente du grand soir où par la lutte des classes, les oppresseurs allaient être renversés et l'égalité et la fraternité allaient régner pour toujours. Mais de nos jours, chez nos contemporains, la finalité de l'existence, c'est ta propre vie. À toi de lui trouver un sens, sachant qu'au final, tu vas mourir. YOLO. Au final, ta quête de sens, elle n'aboutit à rien. Et c'est assez écrasant, et je crois bien que ça provoque une angoisse existentielle que nos contemporains vont chercher à masquer par le divertissement, par la rage des anarchistes, l'engagement humanitaire où on pense aux autres pour pas trop penser. Après, il y a quand même une version chrétienne du YOLO. Tu ne vis qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Et le piège, le YOLO des faux prophètes de notre époque comme de l'époque de Pierre, c'est d'essayer de nous faire croire sont sans conséquence au regard de Dieu. Pour un de Pierre, alors ils ont aussi un argument de fond. Il se base d'abord sur le fait que Jésus, semble-t-il, tarde un peu à revenir, ce qui suscite moquerie. Mais il y a un argument de fond. C'est le fait que depuis la création, depuis que le monde est monde, rien n'a changé, semble-t-il. Donc rien ne changera et vous êtes bien débiles de croire que Jésus va revenir. Ce qui remet bien sûr en cause toutes les promesses du retour, toutes les promesses du jour du Seigneur qu'on a eu l'occasion d'entreapercevoir dans nos survols. Et c'est à cette remise en cause des promesses que Pierre va commencer à s'attaquer. En fait, ces moqueurs, ils sont le résultat d'une promesse qui avait été faite auparavant. Il y aura des moqueurs lors des derniers jours. Donc, s'il y a des moqueurs, c'est un premier encouragement, ne nous affolons pas, parce que c'est bien la preuve qu'on est dans les derniers jours. Et c'est assez rigolo parce que dès qu'on a l'impression que les choses vont de pire en pire, dès qu'on est un petit peu attaqué, parce que Jésus a donné des signes de la période des derniers jours, guerre, tremblement de terre et ici les moqueurs, on s'imagine que ça y est, le moment est venu du jour du Seigneur. Mais en fait, ça fait 2000 ans que se produisent ces signes, parce que ça fait 2000 ans que les derniers jours ont commencé. Ces signes, en fait, ils sont représentatifs de la période inaugurée par la venue et la mort et la résurrection de Jésus. Il nous montre qu'on est bien dans cette parole et que tout se déroule comme Dieu l'a prévu. Dieu est toujours aux commandes de l'histoire. Mais si tout semble s'opposer aux croyants, par des moqueurs, si la douleur le submerge, ses promesses, elles rappellent que Dieu est là. Et souvent, on essaie de décrypter le futur à la lumière des signes qui se produisent. Et en fait, on prend le problème à l'envers, parce que ces signes nous renseignent justement sur la situation présente. Situation qui se déroule selon la promesse de Dieu, selon la parole de Dieu. Et donc, c'était le premier argument. Les moqueurs arrivent comme Dieu l'a annoncé. Donc, ces promesses sont toujours valables. Ce qui inclut la promesse de la venue. Dans la deuxième étape de l'argument, versets 5 à 7, on voit que les moqueurs vont cramer. Et là, Pierre revient sur l'argument de fond des moqueurs, c'est-à-dire rien n'a changé depuis la création du monde. Rien n'a changé depuis que le monde est monde. Mais il y a quelque chose qu'ils oublient délibérément. Par sa parole, Dieu a créé le monde et de la même manière, il a provoqué le déluge. Donc référence à Noé. Là, le détail des versets n'est pas forcément évident à comprendre, mais on comprend bien l'idée générale. Ici, Pierre, en fait, il fait une analyse assez fine des récits de la création et du déluge de la Genèse. L'eau a un rôle crucial. C'est avec l'eau dans la création que Dieu va séparer la mer de la terre du ciel, etc. Et c'est aussi par l'eau que se fait le déluge. D'ailleurs, le déluge, dans la manière dont il a raconté dans la Genèse, c'est un jugement qui est un petit peu présenté comme une décréation avec la montée des eaux, et puis quand l'eau s'en va, comme une recréation. Il faudrait regarder le texte en détail, on n'a pas le temps là, mais c'est une piste intéressante que je vous lance. Et donc, du coup, il est faux de penser que depuis la création du monde, rien n'a changé. La stabilité qu'on peut constater maintenant n'est pas la garantie que Dieu ne va pas intervenir, parce qu'il est déjà intervenu par sa parole dans le passé. Par sa parole, Dieu a déjà agi et il peut et va agir à nouveau. Cette fois, mais par le feu. Autrement dit, et là on transite vers la troisième étape, le déluge d'eau annonce le déluge définitif de feu qui va opérer la décréation du monde pécheur, puis il va y avoir une recréation avec une nouvelle terre et un nouveau ciel où habitera la justice. Mais ça, c'est justement ce que Pierre développe dans la troisième partie, à partir du verset 8, le monde va cramer. Et là encore, c'est un poil plus touchy en ce qui concerne certaines questions d'interprétation, mais l'idée générale est assez claire. Et à partir de ce moment-là, à partir du verset 8, Pierre revient sur la moquerie en elle-même, qui était, je vous le rappelle, bande de gros boulets. Vous croyez que Jésus va revenir? Et Pierre va commencer par expliquer les raisons du soi-disant retard. C'est parce que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Et après ça, il va embrayer sur les implications concrètes de sa doctrine du jour du Seigneur. Quelle vie sainte devez-vous mener? Une vie qui, justement, est le contraire de ce que prônaient les faux prophètes. Alors, pourquoi Dieu tarde-t-il, soi-disant? D'abord, il y a une question de point de vue sur le temps. Le point de vue de Dieu sur le temps n'est pas le même que notre point de vue. Et ici, Pierre cite un extrait du psaume 90, « 1000 ans sont comme un jour ». Mais c'est tout le psaume, c'est le psaume dans son entier qui est en arrière-plan, et qu'on n'a encore une fois pas le temps de voir en détail, mais qui est très intéressant, je vous encourage à le lire. C'est un psaume où va être contrastée la brièveté de la vie humaine par rapport à l'éternité de Dieu. Notre vie est bien brève et éphémère par rapport à Dieu. C'est comme un claquement de doigts dans la main de Dieu. Pouf, et c'est fini. Non seulement ça, mais en plus, cette vie brève est marquée par la souffrance, par l'oppression des hommes injustes. Et dans ce psaume, il y a une sorte de cri de rage face à l'injustice qui fait un petit peu écho à la chanson que je vous ai, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quel va être le cri du psalmiste à Dieu? Ça va être « Jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand tarderas-tu encore ?» Déjà dans le psaume, on est dans le thème « Est-ce que le Seigneur tarde ?» Et l'autre cri qui va avec « Jusque à quand tarderas-tu ?» c'est « Seigneur, prends pitié !» Et justement, pourquoi est-ce que Dieu tarde, soi-disant? C'est bien parce qu'il a pitié, parce qu'il est amour, parce qu'il souhaite que tous les hommes soient sauvés. La période des derniers jours, c'est une période de grâce, pour donner aux hommes l'occasion de se tourner vers lui. Oui, il y a le jugement, et quand il viendra, ce sera trop tard. Mais maintenant, il n'est pas trop tard. Et ça, c'est un encouragement à nous faire penser à nos amis non-croyants. Mais la période de grâce ne va pas durer éternellement. Le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Vous connaissez la chanson. Les conséquences du thème du voleur, c'est tout pareil que Paul. Mener une vie sainte. Et Pierre va aussi développer, un peu plus que Paul, ce qui va se passer lors du jour du Seigneur. Et il en parle avec des termes assez... impressionnant. Il parle de désagrégation par le feu. Alors, comment comprendre ça? Concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça veut dire littéralement qu'il va y avoir un embrasement des cieux? Est-ce que Dieu va complètement détruire la terre et la réduire ensemble, en cendres? Ou est-ce que c'est une manière un petit peu plus imagée de parler, du jugement, par exemple? Littéral, symbolique ou un peu des deux? Le temps nous manque pour traiter cette question sérieusement, mais voici quelques petits éléments. Déjà, on voit que la façon de parler, elle ressemble un petit peu au style apocalyptique, qui est un genre très imagé, avec plein de symboles qui sont tirés de l'Ancien Testament. Du coup, quand on jette un œil à l'Ancien Testament, on s'aperçoit que pour parler des interventions de Dieu dans l'histoire, pour le jugement en particulier, on va employer le vocabulaire du chamboulement cosmique. Même si concrètement, derrière, il y a par exemple une défaite militaire. Mais aussi, le thème du feu dans l'Ancien Testament, il est employé comme image du jugement, très souvent, ou de la purification, parfois. Alors dans notre texte, jugement ou purification, ce qui se passe est en tout cas mis en contraste avec la situation finale au verset 13. Nous attendons une nouvelle terre, un nouveau ciel où la justice habitera. Et je vous rappelle le parallèle que j'avais établi au début avec le déluge. Nous avons un jugement par le feu, peut-être une purification, présenté comme une décréation. Et de l'autre côté, on a une recréation où la justice habitera. Et plusieurs commentateurs pensent que ce texte annonce que Dieu va tout détruire. On rase tout pour reconstruire, ce qui a, entre autres, des conséquences pour notre rapport à l'écologie, par exemple. Si Dieu va tout détruire, finalement, autant polluer comme on veut, dans nos gros 4x4, autant consommer autant qu'on veut, c'est pas grave. Mais je crois pas que ce soit l'optique de ce texte qui nous invite justement à mener une vie sainte. Et après, si vous voulez plus de détails sur ce thème, allez... demander les notes de l'atelier sur l'écologie. Mais je suis pas sûr. Maintenant, il faut aussi noter que c'est pas un texte qui parle du jugement à une échelle individuelle dans laquelle chacun est jugé selon ses œuvres. C'est le monde dans sa globalité qui est jugé. Et je vous suggère qu'en fait, ce qui va être détruit dans ce texte-là, c'est l'aspect mauvais, pécheur et injuste du monde qui va être détruit par le feu pour aboutir à une terre où la justice et l'équité va régner. C'est l'injustice qui va être détruite. Le cadre de la vie de l'homme va être chamboulé pour que seule la justice persiste. Et on voit ça aussi à la lumière d'autres textes de l'Écriture qui soulignent une certaine continuité entre le monde présent et le monde à venir. On parle d'une libération de la souffrance, d'une transformation, d'une régénération du monde. Et ça, c'est encore une fois un encouragement pour nous montrer que notre vie qu'on mène maintenant, même si on attend le jour du jugement, elle a un sens. Elle n'est pas absurde et tout ce qu'on fait ici ne va pas partir en fumée parce qu'il y aura un jugement. Et donc la venue de ce jour n'est pas sans implication pour la vie des croyants maintenant. Parce que ce jour, fondamentalement, il donne une perspective à la vie du croyant. Ce qui compte, ce n'est pas juste notre vie maintenant, mais c'est comment est-ce qu'on s'intègre dans cette histoire du monde qui va... C'est un peu comme dans une course, il y a la ligne d'arrivée. Et pour courir dans la bonne direction, c'est toujours sympa de voir la ligne d'arrivée. Après, par rapport à tout ça, Pierre en tire des conclusions similaires à Paul, je l'ai déjà dit. Menons une vie sainte et intègre. Et comme Paul, Pierre ne joue pas sur la peur que pourrait provoquer la perspective de ce jour, mais il fait appel à la cohérence. Le mal va être détruit, alors ça serait absurde de se comporter de manière mauvaise. Nous sommes destinés à un monde de justice, ça serait absurde de vivre dans l'injustice. Tout ça, c'est comme Paul. Mais Pierre ajoute une deuxième application intéressante. Non seulement le croyant est appelé à attendre ce jour par sa vie intègre, mais il est aussi appelé à hâter la venue du Seigneur. Alors ça, c'est un thème rigolo. Qu'est-ce que Pierre veut dire par là? Alors rappelez-vous, pourquoi le Seigneur tarde-t-il, soi-disant? Parce qu'il veut que tous les hommes se convertissent. Donc, comment arrêter qu'il tarde, soi-disant? Eh bien, en encourageant les non-croyants à se tourner vers Dieu. Et ça, c'est super encourageant parce que Dieu a décidé de prendre en compte les actions des croyants pour établir le timing de son retour. Et ça, encore une fois, ça donne une perspective à la vie du croyant. Il vit pour les autres et sa vie prend modèle sur le caractère de Dieu qui voudrait que tous les hommes soient sauvés. C'est ça qui doit nous bouger, c'est ça qui doit nous motiver. C'est une perspective qui nous engage dans tout ce qu'on fait. Et ça devrait nous mener à mener cette vie sainte qui aime. Parce que si cet amour de Dieu, il est vécu de manière intégrale, de manière intégriste même, pas de compromis avec l'amour du prochain, et bien cette vie, elle va montrer Dieu et elle va donner envie de se convertir. Alors c'est quoi vos barrières qui vous empêchent de mener cette vie? La peur du regard de l'autre? La peur d'être incompris? La peur d'être rejeté? La peur d'être moqué? La peur que ça chamboule vos projets, votre confort? Vous avez bien raison, c'est ce qui va se passer. Mais ça vaut le coup, parce que des gens pourraient se tourner vers Dieu. Alors camarade, t'en as marre de l'injustice? Fais connaître le Seigneur. T'en as marre de voir les riches opprimer les faibles? Fais connaître Dieu. Camarade, t'en as marre de ces pourris qui se croient tout permis? Fais connaître le Seigneur. T'en as marre du péché qui règne dans ce monde? Camarade, t'as la rage au cœur face au mal qui se déchaîne? Vis l'amour du Seigneur. Ohé, étudiants, ne vous endormez pas. Vous êtes les partisans du Seigneur. Vous êtes les ouvriers du grand soir de l'Éternel. Les porteurs de l'amour et de l'espoir. Et maintenant, votre responsabilité, c'est d'aller partout sur les campus pour apporter cet espoir. Ce que Dieu veut, c'est que vous le fassiez connaître. Et alors, le roi paraîtra. Vive le Seigneur! Vive le royaume de Dieu!